Europe Soir, le 18-20, Julien Buchy.
Place au débat des grandes voix du lundi avec ce soir à mes côtés Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Émilie Zapalski, communicante politique. Bonsoir Émilie. Et Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos. Bonsoir Brice.
Bonsoir Julien.
Alors on va débuter avec les élections régionales. C'est donc le grand jour aujourd'hui avec le dépôt des listes. Et voilà que pas moins de 15 membres du gouvernement se présentent un peu partout en France. 5 dans les Hauts-de-France, dont Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin, face à Xavier Bertrand et au Rassemblement National. 5 également en Ile-de-France, ce qui a donné lieu à quelques moqueries de la part de leurs opposants, comme Karima Delli, candidate Union de la Gauche dans les Hauts-de-France.
Ils prennent les électeurs pour des imbéciles. Vous savez que les régionales ne sont pas un show. On ne fait pas du tourisme électoral. 5 ministres sur une liste, vous vous rendez compte? Il y aura bientôt plus de ministres dans les marchés qu'au Conseil des ministres.
C'est normal la critique évidemment venant de l'opposition, Brice Teinturier, mais est-ce que le président de la République au fond a raison de nationaliser ainsi les élections régionales? Est-ce que ça peut fonctionner?
Dans la plupart des régions, ce que nous mesurons, c'est la très grande méconnaissance des candidats. C'est même absolument épouvantable, à part le président sortant et parfois une personnalité, vous êtes plutôt à 75 ou 80% des habitants de la région qui ne connaissent pas les candidats en présence. Donc pour la REM, l'enjeu, c'est évidemment de s'enraciner un peu territorialement. Cela peut apporter de la visibilité à ces candidats qui sont souvent encore moins connus que les autres. Et bien évidemment qu'il y a d'autres arrière-pensées, par exemple dans les Hauts-de-France, où il s'agit d'aller amoindrir une potentielle victoire de Xavier Bertrand.
Mais au régional, Brice Teinturier, on vote d'abord pour un candidat ou pour un parti politique?
C'est les deux. On vote d'abord pour une liste, parce que faute de bien connaître les candidats, malgré tout, le vote partisan joue pour beaucoup. Et la question, c'est plutôt le degré de nationalisation de l'enjeu. Mmh. Et puis ensuite, il y a une prime. Il y a une prime plutôt pour ceux qui sont bien implantés, donc plutôt les présidents sortants qui ont bien travaillé. On voit très clairement que dans certaines régions, quand vous avez un bon bilan, quand vous êtes un peu connu, eh bien vous arrivez à drainer des suffrages au-delà de votre famille politique.
Oui, donc ça veut dire que Xavier Bertrand, dans les Hauts-de-France par exemple, vraisemblablement devrait l'emporter.
Oui, c'est un des meilleurs exemples parce qu'il a un très bon bilan. Il est à 69% de bilan excellent ou bon selon les habitants. Donc il va bien au-delà de son propre score électoral. Mais ça veut dire aussi que les électeurs d'autres listes considèrent qu'il a bien travaillé.
Oui.
Sa popularité également est bonne. Et c'est justement le problème de La République En Marche avec un candidat, Laurent Pietraszewski, qui est très peu connu. Et du coup, une difficulté à accéder même peut-être au second tour.
Brièvement, même question, Émilie Zapalski. Bonne stratégie de la part du président de la République de nationaliser ces élections, parce que ça peut être à double tranchant, évidemment.
Bah écoutez, quand on n'a pas d'ancrage local, quand on n'a pas véritablement de programme local, on balance des têtes d'affiche. Hein. C'est vraiment ça qui est en train de se passer. C'est très risqué parce que, comme l'a rappelé Brice Teinturier, Xavier Bertrand, il a un bon bilan. Hein. Rêve 3, la troisième révolution industrielle, les investissements étrangers qui reviennent. Proche emploi aussi, hein. Il a quand même travaillé, c'est pragmatique. Il a battu Marine Le Pen en 2015. Enfin, il y a tout cet aspect-là qui est très très important et qui risque de peser. Les ficelles sont un peu grosses quand même. On a vu en PACA ce que ça a donné. Hein. Finalement, c'est Thierry Mariani, sous réserve de Brice, hein, qui prend la tête après ses alliances, pas alliances, La République En Marche, Les Républicains. Moi, j'ai l'impression que ça peut être très, très, très visible. Ça peut décourager certains électeurs. Et ce qui me révolte un peu, c'est au mépris de ces citoyens qui sont dans ces territoires. C'est au mépris de tous ces thèmes, de tous ces territoires. Jean Castex, on s'en souvient, avait ce mot à la bouche et se gargarisait des territoires quand il est arrivé à Matignon. On a l'impression que là, la préoccupation des territoires, c'est simplement de la tactique, de la petite manœuvre politique.
Ça fait bidouille politique, Charles Villeneuve, vous êtes d'accord? C'est vrai qu'un candidat qui arrive à quelques semaines des élections dans un territoire qu'il ne connaît pas, on ne peut pas dire qu'il est investi du matin au soir sur les problématiques du territoire en question.
Ben, si l'équation échoue, ça va montrer la faiblesse du parti du président. Et ça va montrer aussi que, notamment, le sauveteur de la liste, le garde des Sceaux, j'ai écouté une dame du marché, je ne sais plus quelle petite ville dans le Nord, où le ministre, le garde des Sceaux est apparu, qui lui a rappelé, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais vous avez vu, avec tout ce qui est arrivé sur le plan judiciaire...
Vous avez du boulot, sous-entendu.
Etc., vous avez du boulot, mais qu'est-ce que vous faites là, tout ça? Bon, donc, nationaliser un certain nombre, pourquoi pas, d'ailleurs, ça vaut aussi pour Valérie Pécresse, parce qu'il y a au moins 3 ministres, je crois, dans la... 4
4 ministres.
4, il y a Madame Vargon, il y a Attal.
Amélie de Montchalin.
Voilà.
Et Gabriel donc, Attal, oui.
Là aussi, elle a l'air, elle a sous réserve aussi de notre ami, le Brice Teinturier.
Elle a l'air d'être devant.
Elle a l'air de, sinon se balader, du moins d'être assez à l'aise dans la région Île-de-France. Donc, ça peut profiter aussi à Pécresse. Oui. Et à PACA, c'est tout à fait différent. Là, il n'y a pas de ministre. Oui. Alors, c'est tout à fait différent. Là, il y a surtout un dynamitage de la droite,
y a des
qui est en partie
même,
réussi, d'ailleurs.
Il y a des régions quand même où il y a des ministres qui sont très légitimes. Je pense à Marc Fesneau, par exemple, en Centre-Val-de-Loire. C'est sa circonscription. Il y est élu local depuis un moment. Il a des chances, d'ailleurs, d'être réélu.
Oui, c'est d'ailleurs la seule région qui pourrait éventuellement basculer dans l'escarcelle de La République En Marche, oui. Éventuellement. Oui. Donc ça montre bien que l'ancrage, là, pour le coup, local et la cohérence...
Ça peut payer.
Ça peut payer.
Oui. Mais ce n'est pas le cas partout. Est-ce qu'à contrario, s'il y a une forte défaite de la part des candidats ministres qui sont désormais engagés, alors on a bien compris qu'ils ne démissionneraient pas, mais est-ce que ça ne risque pas d'affaiblir le gouvernement et les têtes de l'exécutif ?
Mais ah, si, en partie aussi. De toute façon, nous allons avoir des régionales avec des quadrangulaires. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'au soir du premier tour, contrairement à 2015, on a eu beaucoup de triangulaires, là on aura potentiellement énormément de quadrangulaires. Donc l'AREM sera dans la plupart des cas plutôt derrière les LR, derrière le Rassemblement National, voire derrière le Bloc de gauche. Donc ça va montrer sa faiblesse, et la question pour elle sera de savoir si elle se retire ou pas, ou si elle fait des alliances tantôt avec la gauche, tantôt avec la droite, notamment pour s'opposer au Rassemblement National. C'est ça l'enjeu pour La République En Marche. Il suffirait d'une région qu'elle obtienne, puisqu'elle en a zéro, et on dira, bah, finalement, c'est pas si mal.
Ce qui peut être le cas en Centre-Val-de-Loire, éventuellement.
Il me semble qu'il y a cet impact. Hein, s'il y a des régions qui passent au RN, ça sera aussi un peu, pas la responsabilité, mais en tout cas les suites de ces tactiques, de ces manœuvres politiques. Mais il y a aussi une conséquence plus profonde, c'est que imaginons Thierry Barani, par exemple, à la région PACA, imaginons à Hauts-de-France que ça passe au RN, ça donne des élus qui vont être à la tête de région, qui vont être de plus en plus crédibilisés, en fait, pour leur action politique. Et ça crée encore plus un passage de, oui, le Rassemblement National peut gouverner, il peut gouverner une région.
Oui,
on l'a vu pour des mairies, pas beaucoup de mairies,
oui,
mais heureusement.
Mélie, ça
oui,
semble
mais ça
être,
donne
de toute façon, quand on regarde un peu, finalement, la stratégie du président, on a l'impression qu'il joue ça aussi.
Oui, mais
finalement,
c'est jouer avec le feu.
Servira
c'est jouer
le
avec
fait
le feu.
Qu'il aura pour adversaire le Rassemblement National.
Bien.
Et c'est ce qu'il veut.
Oui, non.
Moi, je trouve qu'il y a une autre région qui est très intéressante à suivre, mais pour des raisons différentes, c'est le Grand Est.
Oui.
C'est Jean Rottner, et c'est le fait
qu'il pourrait s'allier à la majorité, d'ailleurs.
Qui pourrait s'allier, mais plus au second tour qu'avant, qu'auparavant, parce que ça a toujours été centriste. C'est la social-démocratie, je dirais, plutôt centriste, c'est vrai, façon Bayrou, un peu. Et ça a toujours été une alliance de ce type avec le centre.
Allez, on marque une première pause, 18h39, on se retrouve dans un instant. On parlera aussi du pari politique, parce qu'il y a toujours un peu de politique là-dedans, du déconfinement décidé par Emmanuel Macron et qui arrive dans 48 heures maintenant, à tout de suite.